Bonjour à toutes et tous. Nous allons commencer avec une première table ronde autour du sujet de cette demi-journée sur l'accessibilité. Merci beaucoup donc aux organisatrices et aux organisateurs pour votre invitation. Peut-être on peut commencer par resituer le contexte qui a déjà été évoqué lors de l'introduction. En regardant dans ce domaine de l'accessibilité lié à l'édition, les jalons qui vont venir. Donc le premier est dès l'année prochaine, puisque le 28 juin 2025, les nouveautés éditoriales numériques devront être accessibles. Puis le prochain jalon est 5 ans après, donc le 28 juin 2030, avec cette fois-ci le fait que le rétrospectif des productions éditoriales seront également accessibles, de même que les sites web éditeurs. Donc il nous a semblé que c'était le moment idéal pour réunir les intervenants autour de cette table ronde, pour justement aborder cette question de pourquoi et comment publier accessible, afin d'aider les acteurs de l'édition scientifique publique à mieux comprendre le contexte législatif et ses évolutions, et l'opportunité que cela constitue pour engager un travail éditorial sur la voie de l'accessibilité. Alors peut-être qu'on peut commencer de donner une première définition de l'accessibilité, qui est celle de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006, qui est donc le fait de permettre aux personnes en situation de handicap, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à tous les aspects de la société, y compris l'environnement physique, au transport, aux services d'information, de communication, et aux autres équipements et services ouverts au public. Voilà, donc cette première définition étant donnée, on pourra notamment en discuter lors de cette table ronde. Et donc, je vais être chargée de la médiation. Donc, je suis Romane Coutançon, directrice adjointe du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur, et j'interviens au titre d'un précédent projet qui a été réalisé, qui est celui de la coordination du guide « Soyons accessibles », qui est un guide pratique pour les productions scientifiques afin d'aider les chercheurs à rendre leurs publications accessibles. Ce travail s'est élaboré autour d'une demande des éditeurs scientifiques publics, précisément par le groupe ESO Accessibilité, donc du groupe ESO, qui souhaitait engager la discussion avec leurs auteurs sur la façon de concevoir des publications nativement accessibles, avec la difficulté, bien sûr, de commencer assez tôt cette sensibilisation, donc dès le niveau master, avec aussi l'idée qu'actuellement, ça n'entre pas dans les critères de notation d'un mémoire, d'une thèse, etc. Donc on a vraiment voulu concevoir cette publication dans une visée accessible avec et surtout incitative, avec des retours d'expérience. Donc vous pouvez trouver ce livret sur la plateforme de formation Callisto, qui est disponible en ligne. C'est une ressource électronique libre. Voilà. Donc je vais vous présenter les différents intervenants avec lesquels nous aurons l'occasion d'échanger. Tout d'abord Rodolphe Cellier. Donc Rodolphe, vous êtes le chef du bureau de la régulation des technologies au département de l'économie du livre à la DGEMIC du ministère de la Culture. Vous avez participé à l'élaboration de la directive accessibilité au niveau européen, puis à sa transposition en droit français. Votre bureau suit notamment les travaux du comité de pilotage interministériel pour le développement d'une offre de livres numériques accessibles, dite LINA 25. Et donc vous nous présenterez le cadre normatif, donc à la fois européen et national, du contexte et les enjeux de la mise en œuvre des exigences d'accessibilité dans le secteur du livre numérique à compter du 28 juin 2025. Ensuite, Raphaël Berger, donc vous êtes directeur de la création de la direction de la création à l'ARCOM, donc l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Vous étiez précédemment directeur des études et de l'offre légale de la DOPI, que vous avez rejoint en 2017, et donc vous êtes spécialisé dans l'analyse des pratiques culturelles dématérialisées des internautes et de la régulation du numérique, et vous êtes en charge des missions de lutte contre le piratage et de soutien à la création. Donc vous nous présenterez justement la mise en pratique de l'accessibilité du livre numérique, et notamment les modalités de contrôle de, ces de cette accessibilité. Ensuite, nous pourrons passer justement à une analyse près du terrain avec vous, Marion Hinck. Donc, vous êtes chargée de recherche à l'INSERM en sociologie, au Centre d'études des mouvements nationaux, des mouvements sociaux à l'EHESS, et vous êtes l'autrice de l'ouvrage Le Monde en miniature, sociabilité en résidence internationale. Ces mêmes éditions. Et donc, vous nous expliquerez, vous nous ferez un retour d'expérience issu de vos propres expériences et également des chercheurs en situation de handicap visuel que vous avez eu l'opportunité d'observer et d'interroger pour évoquer les situations handicapantes rencontrées lors de l'écriture, de la lecture et de l'analyse des productions et des différentes solutions qui ont pu être apportées. Et puis en insistant dans un deuxième temps sur les différentes temporalités spécifiques aux personnes en situation de handicap. Donc peut-être que je vous cède la parole, Rodolphe, pour commencer.
Merci, Romane. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien. Comme le disait Romane, je suis le représentant du ministère de la Culture pour ce qui est donc du secteur du livre, l'économie du livre, et j'ai donc été en charge de suivre les travaux du cadre juridique sur les exigences d'accessibilité qui vont s'imposer aux opérateurs à partir de 2025, dans un an. Tout d'abord, je vais commencer par évoquer cette directive qui date de 2019. Cette directive accessibilité, elle devait répondre en fait à plusieurs objectifs. Tout d'abord, répondre de manière générale aux engagements internationaux de l'Union européenne et de ses États membres, puisqu'ils sont tous signataires de la Convention des Nations Unies des droits des personnes handicapées de 2006, qu'évoquait Romane. Il s'agissait aussi d'améliorer dans l'ensemble de l'Union européenne mais le quotidien des personnes en situation de handicap, qui représentent environ 80 millions de personnes, mais aussi des personnes âgées ou à mobilité réduite. Sachant que tout à chacun, on peut être amené à un moment dans la vie pour une question pour un accident ou une maladie ou simplement l'âge, d'être dans une situation de handicap. Autre objectif, et là ça rappelle bien l'objet de la construction européenne en elle-même, il s'agissait aussi de faciliter la circulation des biens et des services accessibles au sein du marché intérieur. Donc l'idée, c'est toujours pareil, c'est d'essayer d'harmoniser l'ensemble des règles nationales au sein du marché européen. Et pour le secteur du livre plus précisément, puisque cette directive ne touche pas que le livre, elle touche différents produits et services, mais pour le secteur du livre, l'objectif, c'était d'augmenter de manière très significative l'offre de livres aux personnes en situation de handicap, tout en maintenant un autre dispositif qui est plus ancien, lui, qui est l'exception au droit d'auteur pour les personnes en situation de handicap, qui permet à des organismes habilités ou bien aux personnes en situation de handicap elles-mêmes d'adapter et de diffuser des documents adaptés à partir d'œuvres protégées par le droit d'auteur. Donc ce dispositif-là reste, mais donc on ajoute aussi un dispositif qui va permettre d'augmenter l'offre de livres nativement accessibles. Pour ce qui est donc du secteur du livre, on a plusieurs produits et services qui sont visés dans la directive. Bien sûr, les livres numériques en eux-mêmes, les fichiers, mais aussi les logiciels spécialisés de lecture. Et puis, en fait, tout le reste de la chaîne du livre qui va permettre d'avoir une accessibilité de bout en bout de la chaîne, et donc la directive impose aussi des exigences d'accessibilité pour les services de commerce en ligne, donc ça concerne les plateformes de vente de livres notamment, les services bancaires qui qui vont permettre de payer le livre. Les liseuses, les produits liseuses, hein, elles vont devoir être elles-mêmes accessibles. Et puis, de manière générale, les équipements informatiques dits grand public, les ordinateurs portables, les tablettes, les smartphones, et également leur système d'exploitation. Donc, tout ceci va devoir répondre à des exigences d'accessibilité à partir de juin 2025. Et ces dispositions s'appliquent à tous les opérateurs qui sont liés dans cette chaîne, qui peuvent intervenir dans cette chaîne, qu'ils soient du secteur privé comme du secteur public, ce qui vous concerne en premier chef ici. Alors, qui dit directive dit un travail de transposition dans le droit national, donc pour insérer les objectifs de la directive dans notre corpus juridique. Donc, comme ça a été évoqué en introduction, on a eu une loi dite DADU. DADU, c'est un acronyme assez pas très heureux, pour une loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne. En fait, il y a plusieurs lois DADU assez régulièrement qui permettent en fait à la France de transposer, souvent de manière un peu tardive, tout un ensemble de textes européens. Et donc, on a utilisé cette loi pour transposer la directive de 2019, avec un peu de retard. On devait le transposer en 2022, on l'a fait en 2023. Et donc, pour ce qui est du livre, on a modifié la fameuse loi de handicap de 2005 pour introduire des dispositions spécifiques au livre et au logiciel de lecture. Cette loi, elle a aussi précisé quelques éléments, notamment le champ d'application de la directive, avec une précision qui n'est pas indiquée dans le texte de la directive, puisque la directive, elle vise de manière générale les opérateurs économiques, mais sans dire qui précisément. Et donc nous, dans la loi, on a bien indiqué que les éditeurs étaient dans ces opérateurs économiques. On a exclu, alors ça c'était prévu par la directive, cette exclusion, on a exclu les micro-entreprises, puisqu'on a considéré que de manière générale, les micro-entreprises n'avaient pas forcément les moyens de mettre toujours en accessibilité, enfin de répondre de manière native aux exigences d'accessibilité. Il y a deux motifs d'exemption qui sont prévus par la loi et qui sont reprises donc des dispositions de la directive. Une exemption pour modification fondamentale, c'est-à-dire qu'un opérateur qui doit répondre aux exigences d'accessibilité, en fait, ces exigences vont complètement modifier son produit ou son service. Et donc, de ce point de vue-là, il peut être exempté de répondre aux exigences de la directive. Et aussi, un autre motif d'exemption, c'est la charge disproportionnée, qui parle un peu d'elle-même, hein, c'est si économiquement c'est trop lourd pour l'opérateur, il peut se dispenser de répondre aux exigences d'accessibilité. La loi précise également qu'on peut aider les opérateurs économiques pour répondre à ces exigences d'accessibilité, mais si on les aide à ce moment-là, ils ne peuvent plus faire valoir le motif d'exemption pour charges disproportionnées. Et puis la loi pose les missions de l'ARCOM, mission de contrôle, puisque c'est l'ARCOM qui sera chargé de vérifier le bon respect par les opérateurs économiques de ces exigences d'accessibilité. Qui dit loi dit décret d'application. Décret d'application du 14 août 2023, qui reprend là aussi un certain des dispositions qui existent dans la directive déjà, notamment la présomption de conformité, c'est-à-dire qui permet aux opérateurs économiques de se prévaloir d'un fait qu'ils sont conformes à la directive, et ça grâce à des normes qui sont reconnues par la Commission européenne. Et assez récemment, mais c'est un travail qui est en cours, la Commission européenne nous a indiqué qu'elle était prête à reconnaître deux normes internationales dans le champ de l'édition, qui sont l'IPUB 3 pour le fichier de livre et l'IPUB Accessibility 1.1. Ce sont des normes du W3C. Donc, si les opérateurs utilisent ces normes, ils pourront avoir une présomption de conformité et donc être de droit, on va dire, dans les clous. Le décret est venu préciser aussi les différentes obligations d'accessibilité qui s'imposent à chaque opérateur de la chaîne du livre. Les éditeurs, les diffuseurs, les distributeurs et les détaillants. Chacun a des responsabilités particulières. Les éditeurs, bien sûr, sur vraiment fabriquer un livre numérique qui soit bien accessible, de renseigner bien les métadonnées. Diffuseurs, distributeurs, ils doivent bien être en mesure de stocker ces fichiers, de pouvoir les diffuser avec les informations des métadonnées qui ont été renseignées par les éditeurs, et les détaillants pouvoir proposer les livres numériques sans ajouter de DRM qui puisse bloquer ou ce genre de choses. On a aussi dans le décret l'indication des critères pour l'exemption pour charges disproportionnées avec les différents motifs, le chiffre d'affaires, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est en fait une reprise de la directive. Et ce qui n'est pas là du ressort de la directive, mais la directive nous demandait tout de même de prévoir un régime de sanctions. Et donc on a choisi un régime de sanctions pénales avec une contravention de cinquième classe, ce qui correspond à au plus 7 500 € d'amende par infraction. Une sanction qui nous semble tout de même assez à la fois mesurée et tout de même qui puisse être efficace dans le temps. Qui dit décret d'application dit arrêté d'application. Dans l'arrêté, donc, qui date du même jour que le décret du 14 août 2023, on liste toutes les exigences, c'est un peu technique, d'accessibilité qui s'imposent aux livres numériques et aux logiciels spécialisés. Je ne vais pas faire le détail ici, mais vous l'avez sous les yeux. Mais par exemple, ce qu'on appelle le text-to-speech, hein, avec le contenu textuel et audio synchronisé. Si je prends le début et la fin, s'assurer justement que les DRM ne bloquent pas les fonctionnalités d'accessibilité du fichier de livre numérique. On l'a dit, Roman l'a dit, toutes ces exigences vont. Il y a deux dates à retenir. Entrent en vigueur pour tout ce qui est de la nouvelle production éditoriale à partir du 28 juin 2025, donc dans presque pile un an. Et 5 ans plus tard, tous les livres numériques qui auront été édités avant 2025 et qui seront toujours disponibles sur le marché devront eux aussi répondre aux exigences d'accessibilité. Donc il y a un travail assez lourd de conversion pour les éditeurs, et c'est pour ça qu'il y a un délai supplémentaire pour répondre aux exigences d'accessibilité. Voilà, ça c'est le cadre juridique. Juste vous indiquer quelques éléments, on va dire, de contexte sur les enjeux qui nous concernent et les actions qui sont menées par le ministère de la Culture et l'État de manière générale. On a mis en place dès 2017 un comité de pilotage avec différents ministères, différentes instances publiques, mais aussi les représentants des éditeurs, des personnes en situation de handicap, des bibliothécaires, et un comité de pilotage qui vise à développer cette offre de livres numériques et donc d'aller presque au-delà en fait de la simple application de la directive et d'essayer d'emporter l'ensemble des opérateurs, quand bien même il pourrait légitimement, selon les textes, utiliser des motifs d'exemption. Donc on essaye d'emporter vraiment toute la chaîne dans cette ambition collective. Et on a un plan stratégique qui a été adopté en 2018 que vous retrouvez sur le site internet LINA 25. LINA, c'est pour livre numérique accessible. 25 parce que c'est en 2025 que les choses commencent. Même si, comme je l'indique ici, on a déjà en fait une offre qui, les éditeurs sont déjà en train de produire des livres numériques nativement accessibles. Alors, on ne les repère pas encore bien sur les sites de vente, mais on y travaille, notamment pour essayer de trouver comment signaler le mieux possible ces livres numériques et leurs fonctionnalités d'accessibilité sur les sites de vente, mais aussi de prêt. L'articulation avec le dispositif exception handicap, comme je l'indiquais, et ça la directive le prévoit, donc l'exception droit d'auteur hein, qui, comme je le disais, permet à des organismes habilités, mais aussi aux personnes en situation de handicap elles-mêmes, de produire des adaptations à partir d'œuvres protégées. Cette exception continuera à s'appliquer. Et donc, notamment les organismes habilités, qui sont plus d'une centaine, vont devoir en fait adapter leurs activités, puisque jusqu'ici, ils pouvaient adapter des textes, même avec des maquettes simples. Là, ça va être moins le cas, puisque les éditeurs vont principalement produire du livre numérique nativement accessible sur les maquettes les plus simples, là où il n'y a pas de motif soit de charge disproportionnée, soit de modification fondamentale. Ils vont vraiment produire là-dessus. Et donc, les organismes adaptateurs qui faisaient un peu leurs activités là-dessus vont devoir plutôt s'orienter sur des choses un peu plus difficiles à adapter. Là où les éditeurs n'auront pas les moyens en fait eux-mêmes de produire. Je cite également un projet qui est en cours, qui est la création d'un portail national de l'édition accessible et adapté, qui devrait voir le jour en 2026. Ce portail national en fait va présenter toute l'offre de livres. Alors, d'une part, l'offre nativement accessible, celle des éditeurs, mais aussi l'offre des organismes adaptateurs. Donc, l'édition nativement accessible et l'édition adaptée se retrouveront sur un même portail. Et donc, les personnes en situation de handicap pourront, leurs accompagnants ou leurs familles pourront regarder sur ce portail pour voir si un livre qu'ils cherchent est bien en format soit nativement accessible, soit adapté. C'est un projet interministériel. Hein, on travaille avec nos homologues des affaires sociales, de l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la recherche et également le ministère du Travail. Et on a deux opérateurs qui sont investis dans ce projet, la Bibliothèque nationale de France et l'Institut national des jeunes aveugles. Et j'en ai fini. J'espère que je n'ai pas été trop long.
Merci, Rodolphe. Peut-être qu'on peut ouvrir la parole à la salle s'il y a déjà des premières questions suite à cette présentation. Alors, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression à ce stade. Peut-être qu'on peut revenir sur l'aspect interministériel de ces différents projets, parce que c'est vrai qu'il faut insister sur le fait que c'est vraiment porté de façon interministérielle avec une politique assez volontariste pour justement entraîner les différents éditeurs, quelle que soit leur taille. Et du coup, il y a aussi cette question de la communication qui est portée autour de ces différents projets pour justement de la pédagogie qui est derrière. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Est-ce que il y a peut-être des jalons qui sont prévus dans les prochains mois sur cette question de la communication autour de ces différents projets et de cette actualité législative?
Alors, en termes de communication, alors c'est vrai qu'on ne parle pas forcément tous les quatre matins en ce moment à la radio de livres numériques, mais on a depuis plus d'un an maintenant ce site, je crois que vous avez dû voir, donc www.lina25.fr, qui recense l'ensemble des informations utiles pour tous les opérateurs et aussi pour le grand public, justement, sur tout ce qui va arriver à partir de 2025 et ce qui est déjà aussi possible d'avoir. Il y a là-dessus de la documentation, il y a notamment des chartes et des bonnes pratiques de la part du groupe Normes et Standards du Syndicat national de l'édition, qui détaille un petit peu de manière technique un peu les bonnes les bons conseils pour construire votre livre numérique accessible. En termes de communication, c'est un peu l'idée. Et puis sur l'autre projet qui est le portail, là, les choses sont encore en cours. On est au travail pour essayer que ce portail voit le jour, je vous le disais, en 2026. Et je pense que autour de 2026, effectivement, il y aura un peu de communication autour de ça. Pour finir, on réfléchit effectivement à compter de l'année prochaine, donc juin 2025, à des actions de communication, de sensibilisation auprès du grand public sur cette offre de livres numériques nativement accessibles qui arrive et qui va répondre, qui devrait vraiment changer de manière assez radicale les choses pour les personnes en situation de handicap et pour leurs familles et leurs accompagnants. On l'espère. Et donc, on envisage aussi en termes de communication attendre juin 2025 pour sensibiliser tout le monde à cette offre de livres numériques nativement accessibles.
D'accord, très bien, merci. Je vois qu'il y a une question devant.
Oui, Valérie.
Je sais pas si c'est possible.
Rick de NS Édition. Merci pour votre intervention. J'ai une question concernant ce qui était inscrit dans le premier plan du livre numérique accessible publié en 2018. Il était question d'une labellisation du livre numérique accessible. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que la liste des critères dans le décret du mois d'août est le contenu de la labellisation?
Oui, exactement. Alors, comme je l'indiquais, ce plan stratégique avait été adopté en 2018 et on a eu la directive en 2019. Et on a considéré qu'effectivement, les exigences d'accessibilité qu'on retrouve dans l'arrêté de d'août dernier, forment le cahier des charges de ce qu'on appelle un livre numérique nativement accessible et qui n'a pas forcément besoin du coup de labelliser puisque ces exigences vont être obligatoires. Donc il n'y a pas, on ne cherche pas forcément à labelliser. Ce qu'on va chercher, comme je l'évoquais rapidement, c'est puisque un label, en fait, ça permet de bien identifier que le livre numérique est accessible. On travaille avec l'association EDR Lab sur ce plan, c'est comment signaler non pas seulement que le livre numérique est accessible par rapport aux exigences de la directive, mais quelles sont ses fonctionnalités d'accessibilité, vraiment de travailler à, pour que la personne en situation de handicap, quand elle voit le livre numérique sur une plateforme, il est bien indiqué les différentes fonctionnalités d'accessibilité que ce livre peut avoir. C'est vraiment là-dessus qu'on travaille, c'est signaler les fonctionnalités plutôt que de dire simplement il est accessible ou pas accessible. C'est ce qui n'a en fait assez peu de sens pour une personne en situation de handicap puisque ça dépend aussi de son handicap et comme je l'ai dit, c'était dit un peu entre les lignes, mais C'est pas parce qu'un livre numérique va répondre aux exigences d'accessibilité qu'il va répondre à tous les besoins de toute personne en situation de handicap. C'est pour ça que l'exception au droit d'auteur pour les personnes en situation de handicap continuera de s'appliquer, quand bien même c'est un livre numérique nativement accessible. Il pourra potentiellement faire l'objet d'adaptations par des organismes s'il ne répond pas aux besoins de la personne en situation de handicap.
Merci. C'est l'objet d'une deuxième question, mais concernant l'exception handicap au droit d'auteur. Mais si quelqu'un d'autre veut intervenir, je laisse le micro et je poserai ma question après.
Non, mais vas-y, puisque tu es dans la foulée.
Merci. Alors, concernant l'exception handicap au droit d'auteur, la loi nous demande, quand on en dispose, de déposer sur la plateforme Platon le fichier XML. Et on est pas mal d'acteurs dans l'édition scientifique publique à utiliser la chaîne Metop, et on dispose d'un fichier XML TEI. Mais lorsqu'on le dépose sur la plateforme Platon, on a un retour comme quoi le fichier est non conforme. Parce que je ne sais pas exactement pourquoi, mais je suppose que les organismes adaptateurs derrière n'ont pas les moyens de traiter notre XML TEI. Est-ce qu'il y aura une évolution de l'exception handicap au droit d'auteur liée au chantier concernant les organismes adaptateurs qui vont devoir évoluer, étant amenés à adapter les livres complexes qui n'auront pas pu être traités par le nativement accessible. Et est-ce que notre XML TEI sera accepté? Parce que pour l'instant, je suppose que c'est la XML DT Book d'Hachette Livre qui fait référence.
Alors, en principe, l'arrêté ne parle que de XML, il ne précise pas les différentes déclinaisons de format XML. C'est un arrêté qui date un peu, et effectivement, avec le retour que vous faites, mais on a aussi d'autres retours de la part de la Bibliothèque nationale de France, dans lequel, je ne sais pas si tout le monde connaît Platon, mais donc Platon, c'est une plateforme qui permet l'échange des fichiers des éditeurs vers les organismes qui demandent ces fichiers pour pouvoir les adapter plus facilement. Et donc, c'est donc Platon qui est à la BNF. Et effectivement, la BNF nous a déjà parlé de cette problématique du format de fichier à déposer sur Platon, puisque l'arrêté de mémoire dit qu'il faut principalement déposer un format XML. Et que c'est si on n'a pas de format XML, on a d'autres formats possibles, PDF, EPUB, DAISY, etc. Et donc là, on a peut-être un sujet à revoir vis-à-vis de la rédaction de cet arrêté par rapport à toutes les remontées qui nous sont faites pour que peut-être on puisse mieux faire correspondre les besoins des organismes et la capacité des éditeurs à fournir tel ou tel fichier sous tel et tel format.
Merci.
On peut prendre une dernière question.
Merci. Est-ce que vous avez évalué quantitativement par catégorie l'offre des éditeurs déjà disponible?
Vous voulez dire déjà accessible?
Oui.
Alors, On a fait une étude en 2022.
D'accord.
Avec le cabinet Accenture sur l'impact qu'aura la mise en œuvre des exigences de la directive sur le secteur. Du coup, 2022, ça date un petit peu maintenant. Les choses vont vite. Et en janvier, il y avait déjà 7000 nouveaux titres de livres numériques en format nativement accessible. Mais effectivement, comme je le disais, on ne les repère pas encore bien sur les plateformes de vente et de prêt, puisqu'il n'y a pas encore vraiment la méthode de signalement des exigences, enfin des fonctionnalités d'accessibilité. On y travaille. Mais voilà, et je pense que ça grossit de mois en mois, la production grossit de mois en mois. Mais je ne peux pas vous dire exactement pour le moment quel est le. Voilà, en chiffres, j'aurais pas de chiffres très, très précis à vous donner plus que celui-là.
Merci. Je vous propose qu'on passe à la deuxième intervention, Raphaël.